Dollar américain. Donald Trump a bien réussi son coup sur le marché des changes avec un dollar en forte baisse depuis le début de l'année sur le Forex. Première partie de cette vidéo, compétitivité change. Oui, la baisse du dollar est une bonne nouvelle pour les entreprises américaines et pour, notamment, là, les résultats du second trimestre. Deuxième partie sur le plan technique, la fin de la baisse est-elle en vue ? Où en sommes-nous sur le plan technique ? Des objectifs de cours techniques ? Est-ce que des gros supports moyen long terme ont été atteints ? Qu'en est-il ? Vous savez que dans le dollar US, il y a l'euro-dollar, il y a l'USDN, il y a l'GBP-USD, bref. Si vous vous posez la question d'un point bas majeur du dollar US, vous vous posez la question d'un top majeur de l'euro-dollar, et vous allez voir que les choses ne sont pas si évidentes. Troisième partie, qu'en est-il de l'impact de la diplomatie commerciale sur le dollar américain ? Oui, le dollar a été mis sous pression par la guerre commerciale. La diplomatie commerciale avance, vous avez vu l'actualité, les lettres, les accords commerciaux, très bien, mais plus globalement, que peut-on envisager si cette période arrive à son terme sur le dollar américain? Quatrième partie, la livre sterling, les amis. Et je veux vous parler de la livre sterling dans cette nouvelle édition du Fast and Forex. La livre sterling qui est sous pression, ou un peu comme la France d'ailleurs, sauf que l'Angleterre a sa banque centrale, a sa monnaie. Et oui, pression, stress financier extrême actuellement pour l'Angleterre, avec des taux obligataires longs qui menacent de casser des résistances, de dépasser un seuil critique à 5% qui se décorrèle des taux longs américains. D'ailleurs, il y a toujours une corrélation entre les taux britanniques et les taux US. Attention à la livre sterling. Quelle est ? J'ai une stratégie forex à vous proposer sur la livre sterling pour jouer sa mise sous pression. Et enfin, cinquième partie, je reviens avec une stratégie de PEG que je vous ai déjà proposée avec succès il y a 2 mois, rappelez-vous. Je vous avais proposé de vous intéresser à un gros support sur l'USD-HKD parce que défendu par les autorités monétaires de Hong Kong, désormais c'est le contraire, c'est la partie haute du PEG, de ce range au sein duquel les autorités monétaires de Hong Kong essaient de maintenir la valeur du dollar de Hong Kong face au dollar américain. Faut-il exploiter à nouveau la partie haute du range ? Faut-il exploiter le PEG encore de l'USD-HKD dans le cadre d'une stratégie de trading forex ? Chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Voilà, donc je suis ravi de vous retrouver. Donc j'essaie de vous présenter un nouveau format. Désormais, je ferai ça pour toutes les émissions Top Gun et Fast and Forex. J'annoncerai d'entrée de jeu le plan. Là, je vous l'ai annoncé, il y a les 5 parties. Je vais essayer donc d'aller dans les détails. Comme d'habitude, je vous propose un certain nombre de slides. Mais la véritable question que pose cette nouvelle édition du Fast and Forex, alors oui, je vais parler de la livre sterling, je vais parler de l'USD-HKD, de la Hong Kong, je vais parler aussi de l'euro-dollar, bien sûr. Mais la vraie question, c'est celle du dollar. Le dollar perd 12% depuis l'entrée en fonction de Donald Trump. Le dollar perd 11% depuis le début de l'année, ou c'est le contraire ? Bon, ça ne change pas grand-chose. La prise de fonction a eu lieu le 20 janvier. C'est un scénario de bis repetita, vous le savez, puisque les premiers mois du premier mandat de Donald Trump en 2017 avaient vu la baisse du dollar US. Il a bien réussi son coup. C'était sa volonté. Son obsession, c'est le commerce. Et donc, il cherche par tous les moyens à acquérir de quoi ? Limiter les importations ou taxer les importations pour remplir les caisses de l'État ou booster les exportations. Quel meilleur outil que la compétitivité change pour gagner des parts de marché à l'international ? Vous allez voir, c'est majeur. On a tendance à sous-estimer ça, et notamment pour certains secteurs clés du S&P 500. Je vais vous montrer dans cette vidéo, on va reprendre les secteurs du S&P 500, les fameux 11 super secteurs, et vous allez voir que beaucoup sont très sensibles à ce change. Et moi, je ne serais pas surpris finalement que les résultats du second trimestre, donc avril, mai, juin, qui commence là, la publication des résultats du second trimestre d'entreprise américaine, arrive là, en juillet, je ne serais pas surpris que ce ne soit pas si mauvais avec ce rôle du change qui a pu booster les exportations. Donc oui, il a bien réussi son coup. Il ne veut pas l'effondrement de dollar US à zéro. Il veut que le dollar US reste un moyen d'arbitrer le monde, bien sûr. Ok. Mais un peu de compétitivité change, ça fait pas de mal. Parfois, ça joue à pas grand-chose. Hein. Vous gagnez 5, 15, 20% de compétitivité change. Derrière, vous gagnez des parts de marché internationales. Alors, quand vous avez gagné des parts de marché, c'est difficile de les perdre. Hein. En face, ils ont mis en place tout un système d'importation, etc. Donc tout ça, c'est très important. Donc moi, j'estime que oui, il a bien réussi son coup. Il a volontairement, pas volontairement, mais indirectement par toutes ces politiques, hein, il n'y a pas que l'aspect commercial, hein, il y a aussi l'aspect budgétaire, fiscal, affaiblit le dollar américain. Mais affaibli, pas détruit pour faire fuir les capitaux des États-Unis ou du dollar, non. Affaibli pour apporter un peu de compétitivité change, rendre plus attractifs les produits américains. Donc ça, c'est important. Voilà, chers amis, bah écoutez, je vous propose d'attaquer directement les 5 parties de cette nouvelle édition du Fast and Forex. C'est parti. Allez, on y va, les amis de dollar US. Donald Trump a bien réussi son coup. Et oui, l'ami a bien géré. Il a bien réussi son coup. Le dollar américain est donc de loin la devise la plus faible du marché d'échange cette année, vous le savez. D'ailleurs, je vais illustrer ce propos tout de suite. Donc, 11% de baisse pour le dollar américain depuis le début de l'année. Je vais réduire ça comme ça, vous voyez un peu le plan. 11% de baisse depuis le début de l'année, 12% de baisse depuis la prise de fonction de Donald Trump. On s'était 3 semaines après le début d'année. Une baisse du dollar américain qui a eu un impact majeur sur toutes les classes d'actifs, qui a notamment été un des moteurs de la hausse de l'or. Je vous renvoie vers mon dernier Fast and Forex sur l'or. Fast and Forex que j'ai fait la semaine dernière, où je reviens sur les différents moteurs de la hausse de l'or, et ce qui fait que ça pourrait caler un jour, ce serait notamment perdre le moteur du dollar. Donc mais l'impact du dollar va bien au-delà de ça, il impacte toutes les classes d'actifs, et vous allez voir qu'il va impacter aussi les résultats des entreprises américaines, les résultats des entreprises US, qui vont être publiés là au titre du second trimestre. Second trimestre, oui, c'est bien ça. Alors, déjà, pour commencer, effectivement, lorsque vous regardez la performance des indices devises depuis le début de l'année, je suis ici sur TradingView, et je vous ai positionné la performance des devises dites majeures sur le FX, et vous avez donc tout en bas, je l'ai mis en vert parce qu'on appelle le dollar le billet vert. Et donc, ben regardez bien, hein, voilà, je me réduis encore un peu plus, moins 11%. Donc, moins 11% pour le dollar américain depuis le début de l'année. Première chose. Ensuite, regardons les paires majeures, les paires dites majeures du FX. Performance en 2025. Et lorsque vous regardez ces paires majeures du FX, vous retrouvez tout en haut l'eurodoll et tout en haut le GBP-USD. Donc, la contrepartie étant l'USD, c'est l'USD qui est sous pression. Prenez l'exemple du franc suisse, le bon vieux franc. Bon, bien, vous voyez que le dollar se fait écraser par le CHF, d'accord ? Le dollar se fait même écraser par le yen, en fait, bon. Même par le yuan renminbi chinois, par le dollar canadien, par tout le monde, en fait, hein, voilà. Donc, oui, il a bien réussi son coup, puisque le dollar étant en baisse, et encore, là, j'ai mis que les devises majeures, mais il y a un aspect commercial, clairement, l'objectif qui a été atteint, sur le plan commercial. Alors maintenant, forcément, le dollar US, quand je parle de scénario dit de bis repetita, je vous remontre ça, c'est complètement bluffant. Hein. Rappelez-vous, c'est un scénario d'ailleurs de bis repetita que j'ai énormément défendu en fin d'année dernière, en vous expliquant ici que l'élection présidentielle avait eu lieu ici en novembre 2016. Le dollar avait monté puis avait droppé les premiers mois de l'année 2017. Eh bien, regardez donc nous ce qui s'est passé. Hein. Le dollar US avait monté à partir de novembre 2024, donc dans les semaines qui ont suivi la victoire de Trump, et il a droppé. Ce qui est incroyable, regardez, comparez. On est quasiment sur du copier-coller. Et à l'époque, la baisse s'était terminée, donc après 15% de baisse, et il y avait une divergence haussière. Vous la voyez ici? Là, il y avait une divergence haussière. Et c'était à la fin de la baisse. Et donc, la question se pose. Là, on a le dollar a perdu 12%, je vous ai mis ici, hein, voilà, ici 12%. Il a perdu 12% depuis la prise de fonction de Trump. Il y a le début d'une div, mais elle n'est pas encore validée. Bon, il y a cette ligne de tendance, vous voyez, la question se pose. Des objectifs, alors la partie technique, j'y viens après, mais voilà. Vous comprenez donc pourquoi, là, on peut se poser la question. Alors d'ailleurs, cette ligne de tendance, vous allez voir, elle fait débat. Hein. Mais commençons donc par le commencement. Donald Trump a bien réussi son coup. Et oui, son obsession, c'est le commerce. Ah, ça, tout le monde l'a compris, on ne peut pas le louper. Il a deux obsessions, la fiscalité, le budget, le commerce. Enfin, le budget, la fiscalité, on va dire. Et donc la politique budgétaire de manière globale, mais et le commerce. Pour lui, un déficit commercial, c'est du vol de l'argent. C'est pas possible, c'est les États-Unis. Les États-Unis ne peuvent pas être en déficit commercial, sauf s'il y a de la triche. Parce que nous sommes les États-Unis. C'est comme ça, c'est son raisonnement. Donc le dollar est la devise la plus faible du marché d'échange. Ça, c'est ce que nous avons vu. La faiblesse s'exprime, s'est exprimée en tout cas, face à toutes les monnaies. Ça, c'est le message. Il n'y a pas d'ambiguïté. Son objectif, c'est d'apporter donc de la compétitivité change. En fait, il y a plein d'éléments. Vous savez, lorsque vous allez avoir une monnaie qui s'affaiblit énormément, en face, lorsqu'une baisse comme ça atteint 15-20%, et plus face à certaines devises, en face, vous avez des clients qui peuvent commencer à dire « Oui, ok, là le produit américain, qui en plus a une bonne technologie, ça devient intéressant. Ma monnaie s'est tellement renchérie face au dollar, ça devient intéressant. » Et donc, vous mettez en place une nouvelle chaîne logistique pour importer le produit américain. Vous savez, derrière, remettre en place une nouvelle chaîne, ça prend du temps. Donc, c'est là, en fait, où la baisse de la monnaie, en créant chez les entreprises des partenaires commerciaux de nouveaux flux, de nouvelles volontés d'importer, lorsque c'est mis en place, on ne revient pas en arrière facilement. C'est pourquoi la compétitivité change, derrière, elle peut permettre vraiment de regagner des parts de marché. Et puis, il y a aussi le fait que tous ces produits que je vais vendre, ou tout le chiffre d'affaires que je réalise à l'étranger, je suis entreprise américaine, je réalise du chiffre d'affaires à l'étranger, j'encaisse des devises étrangères, et ensuite, lorsque je fais mes comptes, je reconvertis en dollars, artificiellement, ça me fait plus de dollars, puisque la devise en face a pris de la valeur. Donc il y a deux impacts positifs, deux impacts qui peuvent jouer favorablement sur les comptes des entreprises américaines. Et là, c'est le début, nous arrivons, c'est le début de la saison des résultats du second trimestre. Et les earnings là, des entreprises américaines vont avoir un impact décisif sur la tendance du S&P 500 cet été. Alors, on a tendance à sous-estimer le vrai poids du change sur le S&P 500. Alors, je vous rappelle, une première chose que je vous rappelle, c'est ça. Je vous rappelle que le S&P 500 est divisé en 11 super secteurs. Communication services, consommation discrétionnaire, consommation défensive, énergie, valeurs financières, santé, industrie, la tech, matériaux, construction, immobilier et les services publics, utilities. Les 500 actions du S&P 500 sont réparties dans ces 11 super secteurs. Chacun de ces 11 super secteurs a un poids dans le calcul du S&P 500. Et vous avez notamment le rôle dominant de la tech, 33% du calcul du S&P 500, les financières, 14% du S&P 500, la consommation discrétionnaire, les valeurs industrielles. Bon, vous avez des secteurs comme ça qui ont un poids énorme dans la façon dont va être calculé le S&P 500. Et vous avez ici donc un autre tableau qui vous montre le pourcentage pour chacun de ces 11 super secteurs, le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé à l'étranger. Et ici, une estimation, c'est par rapport à l'historique comptable des entreprises appartenant à ces secteurs, une estimation de la sensibilité à la variation du dollar américain. Et regardez, les valeurs de la tech, 58% des revenus à l'international, sensibilité très importante au dollar américain, pour un secteur qui, comme je viens de vous le montrer, pèse quasiment plus d'un tiers du calcul du S&P 500. Donc là, moi je ne serais pas surpris que nous ayons sur ce deuxième trimestre, là, donc les résultats du second trimestre, avril, mai, juin, sont publiés en juillet, que nous ayons des bonnes surprises. En tout cas, le change va jouer favorablement. Et eu égard au fait que le dollar n'a pas baissé que de 1 ou 2%, je vous ai montré, le dollar a perdu 10 à 15%. Ça peut être significatif et donc peut-être permettre des états comptables d'entreprise au second trimestre meilleurs que prévu. Donc c'est là où je pense qu'il a réussi son coup. D'autres secteurs sont beaucoup moins sensibles et réalisent moins de ventes à l'international. Et dans tous les cas, les secteurs clés comme la tech, les secteurs clés comme la consommation discrétionnaire, eh bien, sont, ou même l'industrie. L'industrie qui a une forte sensibilité, c'est logique. Et là, pour le coup, qui est directement concerné par la guerre commerciale. Donc, Il a déjà gagné une manche commerciale avec cet apport en termes de compétitivité change. Alors sur le plan technique, est-ce que le dollar peut aller plus bas ? Jusqu'à preuve du contraire, tant que vous n'avez pas un retournement de tendance à la hausse, tant que vous n'avez pas une divergence, une pattern, quelque chose en fait, qui renverse le mouvement, oui, le dollar peut aller plus bas. Alors, déjà, premier élément que je souhaite ici vous rappeler, le dollar n'existe que parce que des monnaies cotent face à lui, et ce qu'on appelle le dollar américain, le DXY, on appelle le DXY, ce que tout le monde regarde, le dollar US face à un panier de devises majeures, eh bien, sa façon d'être calculée, c'est ça. 57% d'euro-dollar, 13% de dollar-yen, 11% de livre sterling, etc., etc. Donc en gros, à la question de savoir est-ce que le dollar peut aller plus bas, il ira plus bas si l'euro-dollar va plus haut, il ira plus bas si le USD-yen va plus bas, il ira plus bas si le GBP-USD va plus haut. Vous comprenez bien le principe. Bon, ça c'est une première chose à savoir. Maintenant, si on s'en tient simplement au dollar américain face à un panier de devises, l'analyse technique propre au DXY. Bon. Première question, est-ce que des objectifs théoriques ont été atteints ? Sommes-nous revenus sur des supports ? Oui, c'est ça, face à un mouvement baissier. Que font les institutionnels ? L'euro-dollar est-il proche d'un top majeur ? Si vous pouvez répondre à toutes ces questions, y a-t-il des divergences ? Donc, s'il y a des supports majeurs, toutes les cibles théoriques sont faites. Que l'euro-dollar est proche d'un top, que les institutionnels cessent de vendre le dollar, peut-être que oui, il y a le début d'un point bas. Bon, alors, par rapport à ça, où est-ce que nous en sommes ? Première chose de base, une ligne de tendance. Effectivement, vous avez ici un graphique qui expose les bougies japonaises en données mensuelles du dollar américain face à un panier de devises, et vous avez cette ligne de tendance, qui attrape quand même tous les plus bas les plus saillants depuis 15 ans. C'est pas rien. Là, je suis en échelle arithmétique, mais regardez si je passe en log. Ah ah, on l'a cassé. Et là, c'est un problème. Première chose, il faut toujours, surtout sur les horizons de temps longs, jouer sur les deux échelles. En log, on l'a cassé. En arithmétique, on est dessus. Et elle semble agir. Donc, a priori, on partirait sur l'échelle arithmétique. Est-ce que des objectifs techniques ont été faits ? Je vous rappelle mon décompte fractal. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, structure en ABC classique. Le schéma héliotiste de base. Hein, d'accord ? Vraiment, le schéma héliotiste de base. Effectivement, nous avons un intervalle d'objectif. Le A égale C, la cible de la C était comprise ici, entre 98 et 95. Nous sommes en plein milieu. Ça peut être fait. Moi, j'avais cet intervalle objectif. On est rentré dedans. On peut se dire. On est dans l'intervalle objectif. On peut peut-être cocher la case. Oui, mais intervalle, on peut aller chercher plus bas aussi. On peut aller chercher là. D'ailleurs, si on va chercher le A égale C, on va pile poil chercher, regardez à l'époque, la ligne de coup de ce magnifique double bottom. Il faut une pattern. À l'époque, la tendance baissière ici avait été changée par, c'était terminé par un double bottom. Une configuration avec une superbe dive. Là, il y a peut-être le début d'une divergence. Mais on n'a pas encore de double bottom ou de pattern, ni de dépassement de résistance. Donc oui, des cibles théoriques ont été faites. Oui, il y a des supports. Oui, il y a des diffs potentiels. Mais non, il n'y a pas de figure de renversement aussi. Non, il n'y a pas de dépassement de résistance. Et non, les institutionnels n'ont pas encore changé leur fusil d'épaule. Oui, je sais, ces données sont en retard d'une semaine. Oui, elles sont en retard d'une semaine. Donc, mais c'est tout, je ne peux pas faire mieux. Mais elles sont présentes. Et donc, on verra aux prochaines mises à jour. Peut-être que sur les institutionnels, vont commencer à changer leur fusil d'épaule. Là, ce n'est pas le cas. Bon, on le saura avec retard. Mais c'est pas grave. On le sache avec retard. Mais en tout cas, donc, on atteint des supports, on a fait des cibles, mais on ne valide pas encore un renversement haussier majeur. Ça viendra peut-être, on verra bien. Peut-être avec les avancées commerciales cette semaine, on verra bien. La vidéo est publiée mercredi matin, j'enregistre un peu avant. Peu importe. Prépare le terrain, on verra bien. En tout cas, quelque chose peut se jouer. Donc la question en fait que tout le monde se pose, pour résumer. Soit c'est fait, on tient la trend line, on arrive à redépasser 98 et ça repart, soit il faut aller chercher cet énorme niveau. Vous voyez, le A égale C, regardez comme c'est un niveau propre. Ça, c'était la période de la crise sanitaire. La ligne de coup de cette structure en rounding bottom, en fait. Bon, soit, donc c'est vraiment le débat sur le dollar américain ici face à un panier de devises. Alors, bon, alors, vous allez regarder cette vidéo mercredi. Cette vidéo va être publiée mercredi, donc voilà, l'actualité commerciale va énormément évoluer. Il y a aussi la date du 1er août, il y a plein de choses. Moi, ce que je sais, c'est que toute cette phase de guerre de diplomatie commerciale a mis la pression sur le dollar. Je pose la question, lorsqu'elle sera finie cette phase, acheter la rumeur, vendre la nouvelle, si nous arrivons au bout, quelque part, cet été, au bout du bout de cet aspect commercial, le dollar étant été mis sous pression par l'incertitude, va-t-il se relever? Il y a d'autres aspects, il n'y a pas que le dollar. Il n'y a pas que le dollar. Il y a aussi l'aspect budgétaire. Hein, la One Big Beautiful Bill qui est passée. Quel impact ça va avoir sur les taux longs US? Bon, il y a plein de choses. Mais en tout cas, effectivement, acheter la rumeur, vendre la nouvelle, on peut se dire qu'à un moment ou un autre, lorsque l'aspect commercial deviendra moins une incertitude, eh bien, le dollar pourrait finir par en profiter. Ça, on va pas faire de pont sur la comète, on verra. Alors, oui, je vous parle de la livre sterling parce qu'elle est sous pression. Le pays est sous pression de sa dette. Le pays n'est plus dans l'Union européenne. Le pays n'est pas dans la zone euro. Oui, forcément, ils ont leur monnaie, leur banque centrale. Il y a des pressions. Il y a une dette publique de 95% du PIB, c'est pas rien. Il y a une dette publique de 96% du PIB. Il y a un déficit budgétaire, il y a un marché qui commence à sanctionner les taux longs britanniques, qui d'ailleurs se décorrèlent un peu des taux longs, et notamment, regardez, le 10 ans britannique, c'est quand même, il y a un peu là, si on sort par le haut de ça, ça devient, si vous voulez, que ce soit le 30 ans, le 30 ans britannique, ça devient inquiétant, le 30 ans britannique, le 10 ans britannique sont sur des niveaux où le marché ne tolérera pas davantage de hausse. Aller au-dessus de ces niveaux, c'est du stress financier. C'est une inquiétude sur la dette. C'est une dette anglaise, britannique, attaquée. Et le gouvernement britannique a du mal à faire de la réduction de dépenses budgétaires, pour des raisons sociales, mais économiques aussi. Bref, ça va être un sujet de l'été, et ça ne fait que commencer. Donc, la livre sterling va être sous pression. Je pense pas qu'il faille chercher une stratégie face au dollar américain. Moi, je voulais juste, il y en a une qui est technique aussi, hein, qui est aussi une stratégie technique, mais que je trouve assez propre. Finalement, c'est de jouer une stratégie face au taux de change de l'euro. Vous avez ici, donc là ici graphique en données mensuelles. Vous avez mis ici en données mensuelles, vous avez cette belle zone plate, ici, ce beau support à 0,82, qui agit. Vous avez une cassure de momentum sur le RSI mensuel. Je ne serais pas surpris qu'on arrive à aller chercher par ici. Vous l'avez ici, voilà, en données mensuelles. Et donc, il y a un prix qui avance avec son momentum, il y a un fondamental, il y a les taux longs britanniques sont beaucoup plus sous pression que ceux de la zone euro ou que ceux des États-Unis. Et je ne serais pas surpris qu'on puisse aller chercher cette zone-là. Il y a encore du rendement risque. On gère son risque sous 0,82. Il n'y a pas de conseil de trading ici, d'accord? Faites ce que vous voulez. Moi, je dis, il y a une configuration technique qui s'aligne sur un thème fondamental. Et pour l'instant, je ne vois pas d'apaisement sur les taux longs britanniques. Ça peut être intéressant. Voilà. Alors, toujours sur le marché d'échange, là je reviens avec une stratégie. Alors ça, est-ce que vous vous en souvenez? C'était il y a un mois maintenant, pile poil ici, c'était un jour de Fast and Forex. Ah, pour le coup, parfois j'ai de la chance. Mais oui, moi j'ai pas le champ, je peux pas publier quand je veux. Le Top Gun c'est lundi matin et le Fast and Forex c'est mercredi matin. Alors, parfois j'enregistre un ou deux jours avant, donc voilà. Et c'est pour ça. Il faut toujours prendre du recul. C'est le raisonnement de fond qui compte. Ici, il n'y a pas de stratégie trading, il n'y a pas de timing. On n'est pas là pour ça. Mais quand même, là, quand même, je me dis, il y a un truc. Ça, je vous en ai parlé. Donc, ça devait être peut-être ici le mercredi 6 mai. Il faudrait reprendre le Fast and Furious, mais je crois que c'était le mercredi 6 mai. Vous n'êtes pas sans savoir donc que le taux USD/HKD est parfaitement contrôlé par les autorités monétaires de Hong Kong. Entre deux bornes, ce qu'on appelle un PEG. Alors, on a tous en tête, hein, surtout la Suisse, l'abandon du PEG face à l'euro CHF à 1,20 qui avait fait s'effondrer l'euro CHF, causant des pertes de trading. C'est un fait. Toujours être extrêmement prudent avec les PEG. Mais là, ce que nous savons, c'est que les autorités monétaires de Hong Kong interviennent massivement pour maintenir le PEG. Et elles communiquent sur ce sujet. Elles interviennent massivement et elles communiquent sur le sujet. Donc cela me paraissait intéressant de remettre en avant le fait que nous sommes à nouveau au contact du PEG. Alors, ici, dans la partie inférieure du PEG, il y avait une divergence haussière. Là, c'est tendu, hein, il n'y a toujours pas de rejet. Mais dès lors qu'on en ressort, c'est gagné. Donc, l'idée, en fait, c'est d'attendre. Regardez comment ça se passait dans les fois précédentes. Vient un moment où il y a une séance de rejet. Et ça part. Séance de rejet, 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 ça part. Là, il faut attendre. Donc, attendez une séance de rejet par le pas du PEG. Et ça peut être une stratégie de trading FX intéressante. En tout cas, c'est à nouveau donc un seuil ici à mettre sous très haute surveillance. Voilà, chers amis. Bah écoutez, j'espère que cette nouvelle édition de Fast and Forex vous a plu. On commence donc gentiment, tranquillement, à se poser la question d'une fin de chute pour le dollar, même si vous avez vu que techniquement parlant, il faut des signaux pour interrompre une baisse, que ça peut aller encore chercher plus bas. Mais peut-être que non, si on valide un renversement, s'il y a une pattern. Tout ça est en attente. Et donc comptez sur moi pour chaque semaine, continuez de suivre ça de près. Et je serai capable, j'espère, de vous dire quand le bottom sera fait ou pas. Merci de votre attention. Passez une bonne semaine.